dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Auquel j'ai envie de vous amener, c'est que sans énergie.
Bonjour et bienvenue au Grain de Sable, l'émission du collectif
Radio d'Attaque Québec. Bienvenue au Grain de Sable, l'émission Radio d'Attaque Québec, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. C'est une émission qui est réalisée par trois personnes maintenant, donc Michel Monette, Étienne Blondeau et Marie-Christine Aubin. Aujourd'hui, on va vous parler de l'énergie. L'énergie comme thème pouvant enfin unir nos réflexions sur l'économie et l'écologie. C'est un thème ambitieux, Étienne, que tu vas aborder aujourd'hui avec l'aide de Jean-Marc Jancovici.
Oui, c'est ça. Moi, pour l'occasion, vu qu'on est la Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais arriver avec un sujet romantique et je me suis demandé comment unir des personnes, mais en fait, deux domaines qui sont assez... connaissent un amour assez difficile et qui souvent aiment s'ignorer.
C'est amour-haine, hein?
Oui, c'est-à-dire l'économie d'un bord, l'écologie de l'autre bord. Et j'ai repéré, grâce à mes recherches sur ce monsieur-là, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, j'ai remarqué qu'il y a un sujet qui réunit l'un et l'autre de ces domaines-là, économie et écologie, c'est l'énergie. C'est parler de l'énergie dont dépend finalement ces deux systèmes-là. Alors, c'est ça. On va écouter des extraits d'une audition qu'il a donnée il y a quelques années de ça, en février 2013. On peut d'abord faire une pause musicale. Après, je vais plus...
Oui, on va écouter une chanson avant. C'est Michel, oui. Michel Monette au micro. On va écouter une chanson. Il y a la mise en onde. On va écouter une chanson d'abord. On va écouter La berceuse par Mes aïeux.
Le ventre de la terre creuse jusqu'en Chine, jusqu'en enfer. De la pépite d'or jusqu'au grain de poussière, creuse ta tombe sans faire de prière. Et pendant que tu creuses, je chante une berceuse. La 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 la. Pendant que tu creuses, je chante une berceuse pour rassurer l'enfant qui tremble en dedans. Pompe, pompe la dernière nappe d'huile. Plonge jusqu'au plus profond du baril. Engraisse les cochons sur le dos des fossiles. Pompe, pompe à plein gaz, ainsi soit-il. Et pendant que tu pompes, moi je trace un dessin. L'image de son destin. La, 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 la. La, 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 la. Détourne le lit de la rivière sans te soucier du trajet millénaire. Déplace les montagnes et des tribus entières. Détourne les fonds sans regarder
C'était Mes Aïeux. Donc, on est toujours à l'émission Le Grain de Sable et Étienne va nous parler d'un thème lié à l'écologie et l'économie, c'est-à-dire l'énergie.
Oui. En fait, je vais utiliser des extraits là, d'une longue audition qu'un monsieur ingénieur conseil qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Il a donné son audition à l'Assemblée nationale française. Ça s'est passé en février 2013. C'était une commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'était l'audition ouverte à la presse sur le changement climatique et la transition énergétique. Alors pourquoi Jancovici, M. Jancovici, était invité par les députés français pour parler de ça? C'est parce que à l'heure actuelle en Europe, les économistes et politiciens, ben finalement, ils paniquent parce que ils découvrent qu'ils sont comme rendus à une ère sans croissance. Une économie qui ne croît pas, un PIB qui plafonne essentiellement. Alors, ils paniquent parce que leur modèle social, tous leurs programmes sociaux semblent dépendre de ça, une croissance économique maintenue. Alors, ce monsieur-là vient leur dire, finalement, que c'est parce que l'énergie manque et plafonne lui-même. Toutes nos économies et notre modernisation, nos villes immenses qui s'étendent, c'est basé sur une chose, un accès constant à du pétrole en quantité croissante. Finalement, l'économie, c'est quasiment comme une noix gavée de pétrole qui n'en finit plus de grossir. Et ce monsieur-là, Jancovici, il dit que c'est fini. C'est derrière nous. On n'arrive plus à obtenir de l'énergie en quantité terrible et croissante. C'est fini, là, les années de vaches grasses, et il faut en prendre acte. C'est-à-dire que l'économie doit réaliser qu'elle est basée sur l'énergie, elle doit réaliser que maintenant, elle doit penser à l'écologie, finalement, que le pétrole, c'était pas pour durer éternellement. Alors, il vient nous parler, ben en fait, il venait parler aux députés français en 2013 pour leur dire, vous devez réfléchir à ce qu'en Europe, les gens consomment, n'est pas une consommation croissante.
Donc, dans l'extrait qu'on va écouter maintenant, il aborde ce thème-là, c'est ça?
Oui, et il dit aussi que même les SMICards, qu'ils les appellent, ça, c'est ceux qui sont au salaire minimum. Même eux ne doivent pas nécessairement s'attendre à pouvoir consommer plus, finalement, vivre comme des riches. Donc, il dit que c'est l'ensemble de la société qui doit repenser sa manière de consommer. On peut l'écouter.
La question auquel j'ai envie de vous amener, c'est que sans énergie, le monde moderne n'existerait pas. L'énergie a façonné la totalité de ce qui nous entoure, la hausse du pouvoir d'achat, l'urbanisation, la tertiarisation, la mondialisation, le temps libre, les retraites, les études longues, les 35 heures. En gros, la totalité de ce qui aujourd'hui fait ce qu'on considère être les acquis sociaux que nous pensons éternels, c'est l'énergie. Et il n'y a pas assez d'énergie pour que le smicard français continue à consommer comme il consomme. Il ne s'agit pas de vous et moi qui sommes dans les catégories supérieures, il s'agit bien du smicard français qui n'aura pas la possibilité, et ça a déjà commencé, de continuer à consommer comme il consomme. Et toute la question est de savoir comment est-ce que ce genre de situation se gère sans que ça dégénère en instabilité sociale très forte. La deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est que en première approximation, j'ai de très belles courbes pour le montrer, le PIB mondial ne dépend que de l'énergie disponible. Dit autrement, si l'énergie disponible se met à être contrainte, et il ne s'agit pas de prix, il s'agit de volume, alors le PIB se met à être contraint, et en fait c'est très exactement la raison pour laquelle M. Sarkozy s'est trompé quand il a annoncé la hausse du pouvoir d'achat en 2007, et M. Hollande s'est trompé quand il a annoncé le retour de la croissance en 2012. Ils ont tous les deux fait la même erreur, ils ont pensé que leur volonté était plus forte que la physique, malheureusement la physique est plus forte que leur volonté, et donc il n'y aura plus de croissance à partir de maintenant en Europe. En règle générale, on sera dans un monde sans croissance, une année sur deux la récession, une année sur deux un petit rebond. C'est tout simplement lié au fait que l'approvisionnement énergétique en Europe est déjà contraint. En Europe, à cause des contraintes qui pèsent dès à présent sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole, qui représentent en gros les deux tiers de l'énergie consommée en Europe, et il y a dès à présent en Europe une contrainte d'approvisionnement qui fait, j'insiste, que la croissance perpétuelle ne reviendra plus. Alors, on peut trouver ça triste, désagréable, je sais pas quoi. Mon sentiment, c'est que tout plan fait pour l'avenir qui présuppose qu'on va financer n'importe quoi avec les surplus d'une croissance retrouvée fera faillite. À partir de maintenant, il faut faire les plans pour l'avenir sans croissance. De ce fait, le temps joue contre nous. Et de ce fait, il y a un effet d'éviction absolument majeur dans le fait de financer des trucs qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie fossile sur cette Terre pour compter sur sa limitation pour sauver le climat, mais il y en a déjà plus assez pour compter sur son abondance pour faire redémarrer l'économie européenne. Dit autrement, il va falloir que l'Europe trouve le moyen, avec une économie sans croissance, d'inciter les gens qui ont plein de charbon à ne pas taper dedans. Voilà, je vous rappelle que nos voisins allemands ont décidé de faire exactement l'inverse pour le moment. Alors, pourquoi est-ce que le charbon n'a jamais décru dans le monde ? Tout simplement parce que les deux tiers du charbon mondial aujourd'hui servent à produire de l'électricité, et vous verrez un peu plus tard que le premier mode de production d'électricité dans le monde, c'est le charbon. Alors, il faut savoir qu'une centrale électrique, hein, 85% de l'électricité mondiale est faite en faisant bouillir de l'eau, donc c'est des bouilloires compliquées, les centrales électriques, et on peut faire la chaleur soit avec du charbon, soit avec du gaz, soit avec du pétrole, soit avec de l'uranium. À chaque fois, vous faites de la chaleur, faites bouillir de l'eau, faites de la vapeur, vous attaquez une turbine. Toujours pareil. Donc les deux tiers du charbon mondial, c'est de l'électricité. Le pétrole, c'est l'énergie des transports, et donc c'est pas le même usage que l'électricité. Ce que vous voyez ici, et retenez ce pourcentage parce que ça expliquera mon lien énergie-PIB et pourquoi à partir de maintenant il y aura plus de croissance, plus 2,5% sur l'approvisionnement énergétique par personne pendant plus d'un siècle, pendant lequel nous avons structuré les infrastructures, les villes, changé l'agriculture, fait les industries, etc. Hein, bâti les systèmes sociaux qui vont dessus. Plus 2,5% par an. Depuis 1980, cacahuète. Et en fait, l'essentiel de la hausse, c'est le charbon et c'est la Chine. Si j'enlève le charbon en Chine, pour le reste du monde, c'est zéro. Donc depuis 1980, hormis la Chine, l'approvisionnement énergétique par personne n'augmente plus. Et en fait, ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on ne regarde que les prix, c'est que les chocs pétroliers ont marqué une rupture de pente massive sur l'approvisionnement énergétique par personne, qui a commencé à totalement chambouler le système économique mondial en faisant apparaître le chômage, l'endettement et un certain nombre de problèmes qui n'existaient pas avant 1974. C'est pas une affaire de prix, vous allez voir après, c'est une affaire de volume. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, chaque terrien dispose de l'équivalent de 200 esclaves par personne. C'est ça que nous a procuré l'énergie abondante et à bas prix. Dit autrement, si nous n'avions pas les énergies fossiles, on devrait avoir 200 planètes Terre supplémentaires dans le système solaire, où sur chacune de ces planètes Terre, 7 milliards de bons hommes pédaleraient comme des fous toute la journée, et ça nous permettrait, à nous terriens, de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Donc, les terriens d'aujourd'hui sont assez comparables aux citoyens de l'ancienne Grèce. Vous savez, il y en avait un tout petit nombre, là, c'est ceux dont on se souvient, avec une armée de paysans, qui étaient en train d'esclaves et de paysans, qui étaient en train de trimer pour eux, et qui n'avaient pas du tout les droits électifs, etc. Ben là, c'est exactement pareil. En fait, la raison pour laquelle on peut se consacrer aux affaires publiques, avoir le droit de vote, etc., c'est parce que l'énergie a remplacé la force de nos muscles, et on n'est pas obligé de passer notre journée à faire pousser des patates. Avant de vous dire quelles conclusions ça m'inspire, revenons à la manière dont l'énergie a structuré les métiers. Parce que ça, c'est pareil. L'un des trucs qui compte en démocratie, c'est d'avoir un emploi. C'est les grands maîtres penseurs le disaient déjà il y a quasiment deux siècles. L'énergie a totalement déplacé la structure des métiers. Vous avez ici l'évolution de l'emploi en France depuis deux siècles. Alors vous voyez, il y a deux siècles, le français ordinaire était paysan. D'accord ? Tout le monde avait comme fonction productive première de se nourrir lui, plus nourrir 0,5 personnes, qui n'étaient pas dans les champs. Arrive l'énergie. L'énergie permet de fabriquer des machines qui vont rendre service aux paysans, des charrues plus efficaces, etc. Ça permet de fabriquer des moissonneuses-batteuses, ça permet d'augmenter les rendements. Et puis un jour, on va mettre les machines directement dans les champs, après-guerre. Ça s'appelle des tracteurs. Un tracteur, c'est 1000 paires de jambes. Hein, un tracteur de 100 chevaux, c'est à peu près 1000 paires de jambes en puissance développée. Et donc, un paysan maintenant, il nourrit lui, plus 50 autres personnes. Alors qu'il nourrissait avant lui plus 0,5 personnes, il nourrit lui plus 50 autres personnes. La part de l'emploi dans l'industrie se met à baisser, mais le flux industriel continue d'augmenter. Il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et donc, les services où la productivité est moindre peuvent continuer d'augmenter derrière. C'est quoi les services ? C'est le commerce, c'est la banque, et puis c'est le transport, etc. Mais on voit également apparaître une nouvelle catégorie qui n'existait pas avant 1974, qui s'appelle les chômeurs. Les chômeurs, c'est une manière particulière dont le système physique, avec laquelle le système physique, gère le fait que la productivité globale du travail ne puisse plus augmenter aussi vite qu'avant. Puisque la productivité du travail, c'est l'énergie qu'on a. Donc ça ne peut plus augmenter aussi vite qu'avant, et à ce moment, on voit l'apparition de chômeurs. Avant 1974, il y a un siècle, il fallait plutôt passer des lois pour éviter que les femmes, les enfants et les nourrissons travaillent 24 heures sur 24. Donc l'élément limitant avant 1974, c'était le travail. Depuis 1974, l'élément limitant n'est plus le travail. C'est l'énergie. Vous allez le voir après. C'est l'énergie. Voilà un instantané de ce que je vous ai raconté pour la France, et là c'est pour le monde. Donc vous avez ici, pour l'ensemble des pays du monde, la consommation d'énergie par personne en fonction de la fraction de l'emploi dans l'agriculture. Enfin, plus exactement, la fraction de l'emploi dans l'agriculture en fonction de l'énergie consommée par personne. Et ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, plus on a d'énergie par personne, et moins vous avez d'emploi dans l'agriculture. C'est très exactement ce que je vous ai montré en dynamique tout à l'heure. Ces gens vont à ce moment faire des emplois industriels et services dans les villes. Donc l'urbanisation, c'est l'énergie abondante. L'urbanisation, c'est l'énergie abondante. Le fait que la ville puisse être un système socio-économique stable en univers énergétique très contraint, avec 80% de la population dedans, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Et voilà un autre truc qui devrait un peu vous perturber, parce que moi ça m'a perturbé la première fois que j'ai fait ça. Vous avez ici les émissions de CO2 par personne en fonction de la part de l'emploi dans les services. Alors vous savez, on dit toujours, quand on met des services, on dématérialise. C'est l'exact inverse qu'on voit. Plus vous avez de services dans l'économie, en gros, et plus vous avez d'énergie fossile consommée par personne. Alors c'est très perturbant, en fait c'est très logique. Vous pouvez avoir tout le monde dans les services à partir du moment où la totalité de nos fonctions productives sont assurées par des machines qui consomment de l'énergie. Qu'est-ce que c'est les services? C'est gérer de l'information, c'est gérer des flux physiques. Eh bien, vous pouvez mettre à peu près toute la population active dedans. Donc sortir le gaz et le fioul des usages thermiques dans le bâtiment est une des premières priorités à mon sens dans toute conquête de la Lune, puisque moi c'est comme ça que j'ai envie, c'est le nom que j'ai envie de lui donner.
Donc, on vient d'entendre Monsieur Jean-Marc Jancovici, c'est ça?
Mm-hmm.
Oui, qui est économiste et qui parlait à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans le fond, aux politiciens français, mais je ne sais pas exactement où. Là,
c'était l'Assemblée nationale française, mais il n'est pas économiste, en fait, il est ingénieur. C'est pour ça qu'il arrive avec un sujet plus de physique, finalement, mm-hmm. l'énergie. Puis là, ensuite, il vient parler à des politiciens qui, eux, ne font que parler de ça, d'économie, ou que parler d'écologie, parce qu'il y a aussi un parti vert. Donc, vous voyez, c'est deux milieux qui se parlent pas trop, mm-hmm. mais avec lui qui arrive avec son sujet d'énergie, peut-être que les deux milieux écologistes...
En tout cas, j'ai bien aimé ces différentes illustrations. J'ai ri à plusieurs moments. En bon québécois, ils se font parler dans le casse, hein?
Oui, oui. Et faut voir la vidéo aussi. Ils ont l'air médusés la plupart du temps. J'ai trouvé ça très drôle de voir leur face.
OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous expliquent avec des nouveaux mots, on va dire, mm-hmm. d'une autre façon. Mm-hmm. Ils vulgarisent la raison pour laquelle les principes sur lesquels on a basé notre économie actuelle sont juste pas viables. Mm-hmm. Ça a été dit 1000 fois, mais là, lui, il l'illustre une fois de plus. Mais là, toi, tu, dans le fond, dans les prochaines capsules qu'on va écouter, il propose une alternative.
C'est ça. Après la pause, on ira plus dans ses solutions, parce que voilà, il voit que l'économie va tourner à vide, parce qu'elle ne s'est bâtie que sur de l'économie facilement accessible, de l'énergie facilement accessible. Il l'a dit, c'est pendant un siècle, non seulement on a du pétrole abordable, mais on a de plus en plus de pétrole. À chaque année, le pétrole augmente. Alors là, c'était facile de créer tout ce qu'il dit, créer des villes, de quitter les champs parce que les tracteurs prenaient la place du monde, et finalement d'aller dans des services de plus en plus compliqués et éloignés de cette job qui est de faire des patates, comme il a dit.
Mm-hmm.
C'est-à-dire faire des services.
Dans le fond, il dit qu'on est encore... dans le fond, c'est grâce à tous les esclaves qui vivent dans les autres pays du monde que l'Occident arrive encore à se maintenir dans ce mode de vie-là.
Bien, techniquement, s'il y a des esclaves ou du monde qui ont un labeur difficile ou qui sont dans les champs, c'est parce que l'énergie n'est pas encore arrivée dans leurs champs pour les remplacer par des tracteurs qui, eux, carburent au pétrole. En fait, nous, en Europe, c'était comme ça. C'était des fermiers, des agriculteurs qui travaillaient de manière très difficile et ils ont été remplacés par des tracteurs et ils ont pu devenir, je sais pas moi, journalistes, informaticiens, mm-hmm. peu importe. C'est ça. Auparavant, ce qui permettait, il a parlé de la Grèce, ce qui permettait aux gens d'avoir une vie facile, c'était que les esclaves faisaient leur job. Les esclaves étaient dans la maison pour faire le ménage, ils étaient dans les champs, ils fabriquaient tous les objets. Alors en Grèce antique, pourquoi ils pouvaient ensuite se mettre à faire de la philosophie, à s'éduquer, à faire de la démocratie, à jaser à longueur de journée? C'est parce que des esclaves étaient là pour faire le travail. Mais nous, on, grâce au pétrole qui arrivait et qui affluait dans nos économies sans arrêt, on a eu mieux que des esclaves, on a eu des machines. Des machines dans les usines qui fabriquaient comme 200 esclaves n'auraient pas réussi à le faire finalement. Alors, on arrivait à créer toujours plus de marchandises et nous, ignorer ce travail-là, travailler la matière, travailler les outils, travailler la terre, on en avait fini avec ça. On est allé plutôt à travailler de l'information, c'est-à-dire un peu comme on le fait en ce moment, là, faire de la radio, faire de l'information, c'est possible. Parce que derrière, il y a des machines qui font le travail physique, finalement. Mm-hmm. Donc, on n'a pas à se forcer les bras dans les champs ou quelque chose comme ça.
Moi, quand je l'écoutais, ça m'a sonné différentes cloches. Là. La première étant que le fait qu'on, tu sais, on dit que l'urbanisation va continuer à augmenter jusqu'à... Là, je pense qu'on a atteint plus de la moitié de l'humanité qui vit dans les villes.
C'est
ça. Ils disent d'ici 2050 que c'est 80% de l'humanité qui vit dans les villes. Mais si on écoute ce qu'ils nous disent, c'est pas si sûr. Parce que ce qui, dans le fond, nous, ce qui met de l'avant, c'est que la croissance actuelle est basée sur les possibilités illimitées d'exploiter du pétrole. Mm-hmm. Ils parlaient du pétrole comme l'énergie, mais aussi la biodiversité au complet. Donc, on peut pas s'attendre à ce que la croissance continue comme ça. Et donc, l'urbanisation, c'est quasiment un mythe. Tu sais, l'urbanisation infinie,
oui.
C'est un mythe, si on en croit ce qu'il nous dit. Ce qui veut dire qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont faire un retour à la Terre pour replanter des patates, comme il dit. Mmh. Mmh. Puis d'autres qui vont aller vers créer des machines encore plus performantes.
Oui.
Pour ne pas changer de rythme de vie.
Oui, il va en parler. Il va se pencher là-dessus sur les solutions écologiques.
Il y a peut-être un autre mythe aussi, c'est celui de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on serait capable finalement de faire autant avec moins d'énergie.
C'est sûr qu'il faut réfléchir toujours sur l'efficacité.
Ouais.
Il va en parler, mais il fait quand même la prédiction qu'il y aura plus de travail physique et moins de travail sur de l'information. Donc oui, il va y avoir jusqu'à un certain point des gens qui vont retourner à l'huile de bras, finalement, à travailler. Il dit surtout dans le domaine des services qui demandent quand même un effort, comme par exemple, je sais pas moi, des réparateurs de laveuses. T'sais. Plutôt que de créer en usine des millions de laveuses, on va peut-être un peu plus miser dans cette idée-là que des gens vont travailler à réparer des laveuses qui existent déjà, finalement.
Le plus drôle, c'est qu'on va sûrement appeler ça la nouvelle économie, alors que c'est vieux comme le monde.
et vraiment, pour résumer ça...
On va recommencer à se passer les vêtements et ouais, tout ça.
On va dire que c'est nouveau, que c'est innovant.
Ouais.
C'est ça. Alors, voilà, toute cette histoire-là de l'Europe qui tremble, surtout les politiciens, à cette idée-là d'un monde sans croissance économique, eh bien, en fait, c'est le réel qui cogne à leur porte, qui leur dit le pétrole, il y a un plafond à ça, il y a une limite à la montée de quantité de pétrole, alors regardez vos pourcentages de croissance en PIB, vos chiffres, ça ne croît plus, ça pouvait pas croître à l'infini, on y est. C'est ça, on y est, il faut le dire.
On va écouter Alice au pays des ruelles, ça vous tente?
Mm-hmm.
Oh oui, pourquoi pas.
We'll be right back.
Donc, c'était Alice au Pays des Ruelles. On vient d'écouter donc Jean Covici. Étienne, voudrais-tu placer quelques mots avant la pause?
Simplement dire que...
Mm-hmm, ton micro n'est pas ouvert.
Non.
Le voilà.
OK. juste dire que c'est ça. Il va ensuite passer à ce qu'on doit faire. Hein. Ça, on le verra dans l'extrait suivant. Faut tirer des conséquences du fait qu'on n'a pas du pétrole en quantité aussi grande qu'avant, qui ne pouvait plus croître. Alors, faut repenser l'économie autour de l'énergie.
Donc, après la pause, restez avec nous. On va écouter les solutions.
Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
Bonjour, ici Frédéric Lizotte, blogueur et porte-parole à la Régie des rentes du Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est 5 étapes faciles. Parce qu'à plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien un petit 5 minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec.
Du 4 au 28 février, c'est la 16e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 25 journées de festivités. Concerts télématiques, théâtre d'objets, univers immersif, œuvres cinétiques, objets robotiques, théâtre technologique et dispositifs interactifs seront au rendez-vous. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 4 au 28 février, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moismulti.org.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com.
Pour vendre vos bijoux en or au meilleur prix à Québec, une seule adresse, la bijouterie Michel Bello. C'est le temps ou jamais d'en profiter. Nous achetons votre or, peu importe son état. Chaînes, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, breloques et plus. Et comme la Saint-Valentin arrive à grands pas, nous vous offrons aussi un grand choix de cadeaux pour votre Valentine ou votre Valentin. La bijouterie Michel Bello, meilleur prix garanti. 400 boulevard Jean-Lesage, les façades de la gare.
Vous écoutez CKRL. 89.1 Québec.
De retour au grain de sable, et on écoute et on parle de Jean Covici, qui est un ingénieur qui a fait une présentation à l'Assemblée nationale française pour leur expliquer que la croissance économique était impossible sans énergie, facilement disponible, abordable et en grande quantité, donc elle n'est plus possible. On est rendu à... on a écouté l'extrait, l'introduction. Là, on va commencer à aborder les propositions qu'il fait. Donc, on essaie aujourd'hui de faire un lien entre l'économie et la biologie, on va dire l'écologie, parce que c'est pas facile de faire un mariage entre ces deux-là, parce que c'est basé sur des idéologies qui sont souvent qui s'opposent. Même si, quand on connaît bien l'écologie et qu'on connaît bien l'économie, on sait très bien que c'est indissociable l'un de l'autre, puis qu'il y a plusieurs mariages possibles. Donc, Jean Covici l'aborde d'un point de vue de l'énergie. Alors, je laisse Étienne nous parler de la prochaine capsule qu'on va écouter.
Oui, alors, il faut se rappeler que, oui, il est à l'Assemblée nationale, donc il s'adresse à des politiciens. Les politiciens, évidemment, ils viennent de se faire dire qu'il n'y en aura plus de croissance. Alors là, ils veulent savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont quand même un métier à faire, paraît-il. Alors, ils doivent faire des...
On va baser nos promesses électorales,
c'est
maintenant.
C'est ça. Alors, lui, il dit, bon, ben, il faut repenser une nouvelle économie, et ça peut être un projet pour la France, ça peut même être un projet pour l'Europe. L'Europe qui, des fois, on a l'impression qu'ils savent pas trop où ils s'en vont, qu'ils ont du mal à formuler un projet pour l'avenir, un projet pour leur continent ou leur société. Alors, lui, il en a un, c'est tout simplement de repenser l'énergie et finalement de ne plus croire à ça, les énergies fossiles disponibles en quantité effarante. On peut écouter l'extrait pour en savoir plus.
Donc, sortir le gaz et le fioul des usages thermiques dans le bâtiment est une des premières priorités, à mon sens, dans toute conquête de la Lune, puisque moi, c'est comme ça que j'ai envie, c'est le nom que j'ai envie de lui donner. Et j'ai d'autant plus envie de lui donner ce nom-là que, comme je l'ai dit un certain nombre de fois, il va falloir demander de l'effort à tout le monde, et l'effort partagé par tous n'est possible que quand il y a un truc un peu excitant en face. Donc, quand vous dites à un astronaute qui va aller sur la Lune, il est d'accord pour se mettre pendant une semaine dans une boîte de conserve, risquer sa vie, pas voir sa femme, etc. Et tout ça parce qu'en face, il a un truc qui l'excite beaucoup. Et bien, je pense que si on n'a pas, et ça c'est votre métier, je suis désolé, c'est pas le mien, si on n'a pas une vision exaltante à long terme à proposer au pays, c'est pas la peine de songer à la bonne manière de lui demander des efforts. On peut bricoler, poser des rustines, etc. Mais c'est pareil. Et c'est exactement le même sujet, soit dit en passant, pour l'argent. Et je vais prendre un exemple tiré de la vie courante. Si un de vos enfants vient vous voir en vous disant « Donc papa ou maman, j'ai déconné et j'ai 500 euros de trous sur mon compte en banque qu'il faudrait boucher. Vous allez traîner les pieds, le faire une fois parce que vous l'aimez bien. Puis la deuxième, vous allez commencer à trouver que la plaisanterie a assez duré. » Le même vient vous voir une semaine après en disant « Papa ou maman, j'ai un projet pour l'avenir et j'ai besoin de 10 000 euros. » Vous les avez, vous payez. Vous les avez pas, c'est un autre sujet. Vous les avez, vous payez. Donc là, on est exactement dans la même configuration. On n'arrête pas de se demander où on va trouver l'argent pour faire des trucs avec une mentalité de bouchage, de pose de rustine. On va bricoler et on trouvera pas la moitié des machins dont on a besoin. Si on est dans une optique de conquête de la Lune, l'argent, c'est pas le sujet. L'argent, c'est pas le sujet. On le trouve. On a trouvé 1000 milliards pour sauver les banques. C'est pas le sujet. Ça, c'est vraiment pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire, on n'aura pas de l'argent pour tout, et ça j'y reviens, on n'aura pas à la fois de l'argent pour donner un travail à tout le monde, donner de l'espoir à tout le monde et donner plus de consommation à tout le monde. Ça, on l'aura plus. Mais préserver la stabilité socio-économique du pays avec de l'espoir et un travail pour tous, ça on trouve. C'est vraiment pas le sujet. On invente l'économie qui permet d'avoir des aspirations sociales et d'avoir de l'espoir pour l'avenir avec de moins en moins de combustibles fossiles. Je pense que c'est en faisant ça, puisque nous sommes des animaux mimétiques, qu'on a le maximum de chances d'entraîner le reste du monde dans l'action. Dit autrement, ça fait 20 ans qu'on se regarde en chien de faïence parce que personne ne sait comment faire. Les premiers qui font, ils emporteront le morceau. Les premiers qui font, c'est prime à l'agresseur, là, ou prime à l'assaillant, je ne sais pas comment il faut dire. Mais c'est le premier qui fait qu'emportera le morceau. L'Europe a une raison excellente pour faire, qui n'a rien à voir avec le climat, je le redis, c'est que si on reste sur la ligne de pente en ce qui concerne les combustibles fossiles, on enchaînera des récessions en étant complètement désemparés face à ce qui nous arrivera. Donc le bazar dans les banlieues, c'est que le début, si on reste sur la ligne de pente. Hein. Et encore une fois, c'est pas critiquer le président qu'on vient d'élire, c'est de bien se rendre compte de la marge de manœuvre et du terrain de jeu qui est aujourd'hui le nôtre, et de ce qu'on a le droit de faire dans ce terrain de jeu pour avoir de l'espoir, et de ce qui est voué à l'échec d'entrée de jeu. Je pense que ce truc-là, ça doit vous stimuler et pas du tout vous abattre. Je pense que ça doit vous stimuler et pas du tout vous abattre. Par contre, je pense que le temps presse, on l'a déjà dit, et je pense qu'il est donc extrêmement urgent d'avoir quelque chose qui commence à être un peu sérieux sur la manière dont on fait un projet politique désirable dans ce genre d'univers. Je pense que c'est urgent. Oui, alors les énergies renouvelables, J'ai été un peu taquin sur une chose, mais qui correspond encore une fois au fait. Je vais vous donner un exemple. À la suite du Grenelle, on aurait dit le truc intéressant, c'est de déployer les poêles à bois. J'aurais dit très bien. On a dit on va investir dans les panneaux solaires photovoltaïques. C'est la dernière des conneries qu'il fallait faire. Donc je suis pas contre les énergies renouvelables. Je suis contre la méthode sentimentale de gestion d'un sujet sérieux. À partir du moment où le sujet est majeur, on ne le gère pas avec des méthodes sentimentales. Moi, si j'ai un sujet majeur dans ma boîte, je ne vais jamais gérer ça avec des méthodes sentimentales, sinon je suis sûr de couler. Il y a un pays qui est remarquable en matière d'énergie renouvelable qui s'appelle la Suède. La Suède n'a quasiment pas de combustible fossile dans son industrie lourde, quasiment pas. Je vous rappelle, soit dit en passant, que la Suède consomme autant d'électricité nucléaire par personne que la France. Vous le saviez ça ? autant d'électricité nucléaire par personne que la France en Suède. Et ils ont, sauf erreur de ma part, une réputation parfaitement écolo, vu d'ici. Hein. Donc, la Suède consomme deux fois plus d'électricité que la France par personne, moitié hydraulique, moitié nucléaire. L'industrie lourde utilise essentiellement de l'électricité décarbonée et du bois. Ils ont une consommation de gaz et de charbon en Suède qui est quasi nulle. Et la totalité du chauffage est assurée avec des réseaux de chaleur au bois, mais ils ont 350 000 km² de pays pour 9 millions d'habitants, couverts à 70% de forêt. Et la clé du succès pour les énergies renouvelables, elle va être là, toujours. La clé du succès pour les énergies renouvelables, c'est beaucoup de montagnes ou beaucoup d'espace pour faire pousser quelque chose. Sinon, compliqué. Une des énergies renouvelables, à mon avis, très intéressante à regarder pour les Européens, c'est ce qui se passe dans le désert, où il y a plein de soleil et pas beaucoup de monde à emmerder. Et au lieu de dépenser 100 ou 150 milliards d'euros dans de la CSPE pour déployer du photovoltaïque en France, on aurait fait un grand projet industriel avec ça pour se mettre d'accord avec les Marocains, les Algériens ont du gaz, donc ils s'en foutent, et les Tunisiens, et les Libyens aujourd'hui. On aurait pris pied sur quelque chose où on était sûr de donner du boulot aux ouvriers français pour développer des technologies qui seront peut-être extrêmement utiles dans toute la bande tropicale à l'avenir. Donc voilà, je ne suis pas du tout contre les énergies renouvelables. Je suis un grand partisan des énergies renouvelables, gérées avec des méthodes sérieuses.
Moi, je le trouve excellent, Jean-Covici.
Vas-y.
J'ai pas arrêté de rire. La conquête de la Lune, moi, écoute, ça rejoint tellement une discussion que j'ai eue cette semaine, justement, avec des gens qui essaient de préparer le printemps 2015, là, que je trouve très courageux à Québec. Je leur disais que, selon moi, les gens ont besoin de rêver présentement parce qu'on n'a plus de projet de société, puis on n'a plus de nous, le sentiment de vivre ensemble, le fait de construire, tu sais, tous les avantages du collectif, là, c'est comme s'ils étaient complètement occultés. Puis, en fait, au lieu de critiquer sans cesse les politiques d'austérité, je me disais, c'est peut-être mieux juste de considérer que l'austérité, c'est une idéologie et qu'en fait, il y en a d'autres. Et puis, proposer tout ce qui pourrait être fait d'autre plutôt que de critiquer ce qui se fait actuellement. Donc, le vivre ensemble, avoir un rêve commun à proposer, puis une alternative de société pour le 21e siècle. Je pense que c'est ce que les mouvements du printemps 2015 peuvent faire de mieux. Là.
Mais, une des difficultés, c'est, Michel, les difficultés, c'est que les gens n'y croient pas.
Mais ils ne croient pas en quoi? En quoi croient les gens maintenant?
Je ne sais pas, mais les gens ne croient pas qu'il y a un problème d'énergie. C'est ça qui est incroyable. Puis je comprends le sentiment d'urgence qu'il a voulu instiller chez les parlementaires français, puis qu'on essaie ici aussi de faire comprendre. Puis il y a des gens qui sans cesse disent que ce qui était dit dans le Club de Rome il y a, je sais pas, 30 ans, 40 ans, aujourd'hui on regarde les données, et c'est exactement vers ça qu'on s'en va, mais personne n'y croit.
Parce que si ça implique d'être retourné planter des patates, il n'y a personne qui s'intéresse.
Oui, c'est ça le problème. Mais les gens n'y croient pas qu'il y a un problème d'énergie, c'est ça qui est incroyable.
Oui, c'est qu'on doit être dans la proposition, parce que s'il y a bien un projet politique qui, je pense, aura pas beaucoup d'écho au sein de la population, c'est la décroissance. Je comprends le discours de décroissance fait par certains écologistes, mais personnellement, moi, ça ne me motive pas. J'imagine que pour la large part de la population, ça ne les motive pas. Pour ça, que si décroissance il doit y avoir, faudrait au moins... je dirais, à agrafer ce projet-là à autre chose, un projet aussi social, par exemple, de plein emploi, d'emploi garanti par le gouvernement. C'est quelque chose que j'avais proposé d'ailleurs, je pense, à la première émission que j'ai fait ici. Et voilà, il faut avoir quelque chose qui soit non seulement écologique, mais aussi social, vraiment, qui permet de donner une perspective aux gens. C'est vraiment ça que Jankovic a mentionné très rapidement, des emplois, une perspective. Moi, comment je traduis ça? Ça veut dire un emploi garanti à tous par le gouvernement, s'il le faut, il doit pas hésiter. Et quand il dit perspective, moi, j'interprète ça comme l'éducation, souvent, pour avoir, finalement, accéder à d'autres milieux. Il faut avoir un accès, je crois, gratuit à l'éducation.
Moi, je suis beaucoup le mouvement Colibri en France, qui est un mouvement qui propose des alternatives de société au niveau politique, au niveau de l'habitat, de l'habillement, de l'alimentation, du vivre ensemble aussi. Et bon, c'est un sujet qui est souvent abordé de façon superficielle. J'aimerais pouvoir en parler peut-être plus amplement dans une émission. Mais en fait, c'est qu'il y a des alternatives, mais elles partent de la base, selon moi. Elles partent pas de l'État. Donc, je trouve M. Jankovici très... pertinente, le fait d'aller rencontrer des parlementaires puis leur dire en pleine face qu'il y a des solutions et qu'ils font partie du problème, ça prend des gens qui vont le dire. Mais la solution, c'est aussi notre mode de vie individuel à nous. Le mouvement Colibri, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'ils arrivent à harmoniser une vision commune avec changer notre mode de vie individuel. On ne peut pas juste se contenter de changer notre mode de vie puis se dire qu'on change le monde. Ça prend des efforts communs. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu un article passé la semaine passée sur le fait que l'État français va financer des alternatives sociales comme celle du mouvement Colibri. Il faudrait que je le retrouve. Voilà.
Peut-être aussi qu'une des difficultés, c'est que les gens écoutent constamment la télévision, pour se le cacher. Ils sont constamment sollicités à consommer. Il y a comme un modèle idéologique qui est là, qui est profond, qui est puissant, qui va à l'encontre finalement de cette idée qu'il faut faire quelque chose, il faut faire les choses différemment.
Exact. Il a beaucoup insisté en première partie, là, dans le premier extrait, sur le fait que tout le monde doit participer à cet effort-là de consommer moins d'énergie et consommer intelligemment. Pas consommer toujours plus que la veille, consommer intelligemment. Et tout le monde doit participer, mais même ceux au salaire minimum, finalement, il ne faut pas faire miroiter cette idée-là qu'il y aura des baraques immenses qui seront bâties avec deux voitures par famille ou je ne sais pas quoi encore. Il faut vraiment... vraiment que tout le monde y mette du sien, mais la seule manière, c'est par un projet stimulant. Et le projet stimulant, je pense, c'est la sécurité économique. C'est vraiment enrayer la pauvreté, mettre des barrières à la pauvreté, miser sur l'emploi garanti, le salaire minimum. Et ça demande vraiment un État central fort qui peut faire
mais
ça.
Comme disait M. Jankovici, si on veut ça, ça prend... ça prend un environnement qui nous permet de cultiver nous-mêmes. Il disait, ça prend... comment il a dit ça? Il a tourné sa phrase, était assez drôle. Il disait, ça prend des montagnes puis des champs, ou je sais pas trop.
Oui.
En voulant dire que si on ne préserve pas l'environnement, on ne peut pas penser qu'on va avoir une sécurité ou une durabilité ou quoi que ce soit. L'État n'est pas la solution, selon moi. Je pense vraiment que la révolution, s'il y en a une, va passer par l'agriculture et par une agriculture, une agroécologie, en fait. Parce que c'est notre mode de consommation, et notre mode de consommation est basé sur l'énergie, comme il le dit. Puis c'est surtout à travers les champs qu'a commencé la révolution industrielle.
Je suis assez d'accord avec toi, Marie-Christine. Les gens n'auront pas le choix de s'adapter un jour.
Nous les premiers. Oui. Hein?
Non, effectivement, oui.
Moi, je crois que je vais retourner sur l'image qu'il a fait quand il parlait d'une conquête de la Lune, parce que moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup de l'histoire américaine. C'est la conquête de la Lune. Alors, on se retrouve avec John F. Kennedy, qui fait son fameux discours en disant, en dedans de 5 ans, un Américain marchera sur la Lune. Je pense qu'il dit quelque chose comme ça. Et là, finalement, les employés de la NASA, qui eux aussi regardent leur télé ou écoutent la radio, découvrent que leur président a promis que eux, la NASA, qui n'en était pas informée, allait faire marcher quelqu'un sur la Lune. Alors, tous surpris, ils doivent se dire, bon, ben le chef a donné une orientation, on doit réagir. Donc, voilà, les experts sont pas du genre à formuler des projets. Ils sont pas très bons, à mon avis, là-dessus, pour donner des projets stimulants. Ils sont plus dans l'exécution. Du moment que quelqu'un établit une direction la Lune, eh bien, les experts doivent fournir des efforts pour trouver les moyens. Ils doivent vraiment réfléchir. Et c'est là que, après coup, après avoir formulé le projet, c'est ça, les exécutants réagissent, décident qui on doit engager, quelle nouvelle technologie on doit inventer. Et c'est ça qui est intéressant, hein, la NASA inventer tellement de technologies, là, ce serait difficile d'en faire la liste, là, parce qu'il y en a des centaines, des objets qui nous entourent, qui ont été inventés dans ce même élan-là, on va se rendre dans l'espace, on va se rendre sur la Lune. Alors, le rôle d'un gouvernement central, je pense, c'est d'avoir quelqu'un qui a des idées, qui a des projets, et qui donne l'orientation. Pour ce qui est de l'exécution, là, il y a moyen de moyenner, hein, ça peut être fait par les municipalités ou les régions qui décident de comment faire, hein, pour avoir des énergies qui sont renouvelables ou qui font un peu plus de sens que d'importer du pétrole.
Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, moi j'ai lu des textes de Jankovici. Alors ce qu'il se dit finalement, c'est les principaux gains à faire, c'est les économistes qui vont nous dire économiser de l'énergie ici plutôt que là, ça fait plus de sens économiquement, c'est plus efficace. Alors, le genre de réponse, c'est rénover, faire la réfection des bâtiments pour qu'ils perdent moins de chaleur, qu'ils utilisent mieux leur énergie, avoir des plus petits véhicules qui vont consommer moins de pétrole et éventuellement on pourra passer au moteur électrique. Et finalement, c'est utiliser l'électricité dans le plus d'endroits possible plutôt que du pétrole. Et c'est là qu'il est polémique, ce monsieur-là, Jankovici, parce que lui, il est pas contre le nucléaire. Hein. Pour lui, ça fait un sens économique et écologique en France, vraiment en France, qui existe beaucoup de centrales. Et finalement, il s'oppose au plan des Verts ou d'autres groupes qui veulent arrêter immédiatement le nucléaire, simplement parce que leur alternative, c'est plutôt... on importera du gaz plutôt que d'utiliser les centrales. Alors lui, il trouve que c'est pas un changement spécialement pour le mieux. Et le nucléaire, je vais en parler rapidement, je suis pas un expert en la question, mais il va exister des nouvelles générations de technologies, des nouvelles générations de centrales. J'ai entendu parler du thorium, j'ai entendu parler de la fusion nucléaire qui permettent de produire plus d'énergie de manière plus sécuritaire. Et en faisant moins de déchets, en fait, en ne faisant pas de déchets radioactifs dangereux.
Ce qui est, dans le cas du Québec, ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous annonce un surplus d'énergie hydroélectrique et qu'on veut quand même augmenter la production de pétrole, le passage de gaz, et etc. On continue de miser en partie sur le pétrole, le gaz, alors qu'on va avoir un surplus. Il suffirait de faire aller notre imagination pour utiliser cette énergie-là, justement.
Oui, et ça, c'est ce qui est vital, c'est d'électrifier les transports. Ça, d'ailleurs, j'ai été à une conférence de quelqu'un qui est de l'IRIS, là, Simon Tremblay-Pépin, qui s'appelle, et que lui, quand dans la période de questions, on lui demandait, mais... au-delà de l'austérité, si le gouvernement devait vraiment s'engager dans un projet, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce monsieur-là de l'IRIS, il disait, ce qui est pressant, c'est de réformer nos transports au Québec, d'électrifier nos transports. Et un bon exemple qui était dans les médias ces dernières années, c'est le fameux projet de monorail entre Québec et Montréal. Personnellement, je pense que c'est un projet intéressant, avec une technologie de roues électriques, de moteurs électriques québécoises en plus. Alors oui, c'est il y a vraiment beaucoup de travail à faire et du moment qu'on oublie les importations de pétrole pour de bon, c'est bon pour nous. Finalement, on est perdant si on ne fait qu'importer notre énergie. Et Jankovici, lui, pour ce qui est d'y arriver, il propose finalement une alliance politique entre tous ceux à qui ça profiterait de faire une transition vers plus d'électrification. Alors, finalement, tous les acteurs économiques, fabricants de petites voitures, fabricants de vélos, rénovateurs d'immeubles, constructeurs de centrales nucléaires, exploitants forestiers, réparateurs de tout et n'importe quoi, urbanistes, maraîchers de proximité. Il les nomme tous, il dit qu'en fait, ils devraient voir qu'ils ont un intérêt commun à vaincre le pétrole et enfin passer à autre chose. Et une alliance politique entre tous ceux qui profiteraient d'une économie verte, finalement, quoi qu'il inclue le nucléaire là-dedans, faut le rappeler, eh bien, ils ont beaucoup à gagner politiquement. Ils pourraient s'allier et aider à faire passer le projet. En Europe, parce qu'ils parlent de l'Europe. Ça.
Sur ces belles paroles, Michel, sommes-nous déjà rendus à la chronique événementielle?
On va peut-être faire une petite pause musicale avant. Qu'est-ce que tu en dirais?
Je trouve que c'est une très bonne idée.
La tordue René Bouteille.
Les étoiles tombent, il creuse la sienne, plus pâle qu'une ombre qui boit de la verveine. Il chante, mais c'est l'air de la mer qui bientôt le tourmente et lui vole sa prière. Il chante, mais c'est l'air de la mer qui bientôt le tourmente et lui vole sa prière. Depuis qu'il a vu le jour, il a trimardé sur terre, mais il a pas eu plus d'amour qu'un sac de pommes de terre.
il chante, mais c'est de l'eau amère qui lui coule ardente, brûlure à ses paupières. Il chante, mais c'est de l'eau amère qui lui coule ardente, brûlure à ses paupières. Ses vieux l'ont pas reconnu, alors il est allé se faire voir par le monde et ses rues. Il a mangé son pain noir, on peut pas tout avoir, ouais mais quand on n'a rien eu. Et nul n'a répondu quand il voulait savoir, et son cœur s'est fendu d'essuyer tant de déboires. Il est tombé des nues, il s'est même fait trottoir, puis porté disparu par des gens trop bavards. Chacun vaut son voisin, sauf quand c'est un vaurien. Pavé et breloque, il a le scorbut à l'âme et son cœur soliloque. Sans but le pauvre diable, il a la tête tordue et sauré d'une oreille. C'est pas d'avoir trop bu, c'est d'être né bouteille. Il chante, il voulait boire la mer qui sur ses joues serpente les soirs de trop de misère. Il chante, il voulait boire la mer qui sur ses joues serpente les soirs de trop de misère. La mer, c'est elle qui le hante, dans son cœur une arrière, ses ondes écume qui chantent, dans le miroir aux étoiles, dans l'océan sa planque, d'alouette en cavale, il a jeté son ancre. Il chante, mais c'est bientôt la mer qui vient couvrir sa plainte au creux de sa dernière bière. Il chante, son chant de vagabond, c'est maintenant la mer qui roule sa chanson, qui roule sa chanson.
Débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe.
C'est l'heure de la chronique événementielle de la semaine et je vous propose des divers événements que j'ai vus sur le médiaréseauforum.org. Je suis en train de visionner Slam et Poésie qui aura lieu lundi à 20h au Bar Coop La JT. Ils font ça régulièrement, en fait, le Slam Poésie. Donc là, ça va être Denis Bellé, Luc Duressac, Frical, Laurent Lafrenière-Landry, Nedza, Annie Sly et Jules Verne. Le Slam sacrifié, donc ça semble être le thème de la soirée. Sinon, il y a cette semaine, mardi, le 17 février, un atelier sur la hausse des loyers. En fait, pendant tout le mois de février, le bail réalise différents ateliers pour expliquer comment ça fonctionne, les hausses de loyers, et ce que vous pouvez faire pour freiner l'explosion, et aussi quels sont vos droits et vos devoirs en tant que locataire. Donc le mardi, ça va être au Centre Marchand, salle 104. Ensuite, vous avez aussi un autre événement qui est un peu en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça se passe à l'Université Laval. C'est « Défis et opportunités pour la biodiversité et le développement durable ». Donc, c'est une conférence donnée par M. Braulio Ferreira de Souza Dias, secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique. La conférence, qui va être sous forme d'entretien, va permettre de discuter justement du développement durable. Donc, c'est à l'Université Laval, pavillon Alphonse Desjardins, et c'est à 17h30, mercredi le 18 février. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le media.reseauforum.org pour voir les autres activités. Il y en a plusieurs cette semaine. Il y a même une mini-action contre l'austérité le 19 février. Je vous invite à aller faire un tour. Donc, on est déjà à la fin de notre émission. Alors, Michel, ce fut une émission intéressante pour discuter d'énergie. Je pense qu'on va continuer sur ce thème-là aussi, parce que ça semble être fertile. Je vous remercie Étienne qui a produit, qui a été chercher l'information pour cette émission-ci. Michel Monette qui est à la technique aujourd'hui. Et je me remercie pas, là, mais moi-même, je suis à l'animation. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, on vous invite à aller voir notre site, legrainsable.wordpress.com. Vous allez aussi trouver un lien vers notre page Facebook. Si vous avez des événements à suggérer ou des sujets de thèmes à aborder, je vous invite fortement à le faire. Et je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre d'Attaque Québec qu'on reçoit à peu près tous les mois, qui vous propose des activités. Donc, demeurez à l'antenne pour écouter les Geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.
Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix.
Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.
Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais.
Voilà.
Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus.
Qui viennent avec un petit sachet, ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux.
Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans.
Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble.
Oh my God, qu'on est rendu loin!
Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui...
En quête de soins antidouleurs vraiment efficaces? Chez Ma Solution Québec, situé au Centre médical Mayou, dans le quartier Mézeray, vous bénéficiez depuis 2012 d'une expertise en myothérapie vibratoire, forme de massothérapie clinique. En février, obtenez 20 $ de rabais sur tout soin de 60 minutes ou plus et obtenez 5 $ de plus si vous êtes membre de CKRL. Informez-vous sur monlimoilou.com/ma-solution au 418-455-6210 ou au 418-561-9055. Demandez Mélissa ou Gérard.
Pour vendre vos bijoux en or au meilleur prix à Québec, une seule adresse, la bijouterie Michel Bello. C'est le temps ou jamais d'en profiter. Nous achetons votre or, peu importe son état. Chaînes, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, breloques et plus. Et comme la Saint-Valentin arrive à grands pas, nous vous offrons aussi un grand choix de cadeaux pour votre Valentine ou votre Valentin. La bijouterie Michel Bello, meilleur prix garanti. 400 boulevard Jean-Lesage, les façades de la gare.
Bonjour, ici Frédéric Lisotte, blogueur et porte-parole à la Régie des rentes du Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est 5 étapes faciles. Parce qu'à plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien un petit 5 minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec.
En février, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Les 15 et 19 février, l'Opéra de Paris présente L'Enlèvement au Sérail. Le 18 février, voyez Les Aventuriers voyageurs en Corse. Du 27 février au 8 mars, ne manquez pas la 4e édition du Festival de cinéma pour enfants de Québec. Cet hiver, venez découvrir notre nouvel espace lounge, maintenant ouvert dans les aires du cinéma Le Clap. Découvrez aussi notre nouveau magazine électronique gratuit, disponible dès maintenant dans le App Store de votre iPad. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca.
Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'aérospatial, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1.
Après le grand succès des Trois Exils de Christian E., le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre L'Escaouette de Moncton et le Théâtre français du Centre national des arts d'Ottawa présentent Le long voyage de Pierre Guy B., une odyssée déjantée qui groove.